Rencontre spirituelle en ce 31 janvier, c'est la fête de Saint-Jean Bosco. Je vous avais raconté la vie de Saint-Jean Bosco l'an dernier. Je vais compléter cette année par sa spiritualité, sa façon aussi d'envisager l'éducation. Je vous rappelle que c'est un prêtre de Turin, en Italie, n'est-ce pas, qui est mort en 1888. Certains considèrent que c'est le curé d'Ars qui serait le plus grand saint du siècle dernier. Je crois qu'on oublie Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte il y a exactement 100 ans cette année. Mais je pense aussi qu'on oublie Saint-Jean Bosco, qui a vécu de 1815 à 1888 et qui a consacré sa vie à la jeunesse populaire de la ville de Turin. Ton regard s'étendait bien au-delà de la région du Piémont où est située la ville de Turin dans le nord de l'Italie. C'est pourquoi il a fondé la congrégation des Salésiens qui sont présents ici au Québec et celle aussi des Sœurs de Marie Auxiliatrices qui sont très nombreuses aussi, comme les Salésiens, qui se sont mis au service des jeunes. Ils ont fait ça non seulement en Europe, mais ils font ça d'un bout à l'autre de la terre jusqu'à la terre de feu, si on veut. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. J'aime beaucoup Jean Bosco. J'aime beaucoup Jean Bosco parce que c'est un homme de feu, un homme enthousiaste. On peut se demander si c'est un grand pédagogue. C'est une question que certains se posent, comme dit l'auteur d'un livre dont Bosco avec Dieu, c'est Eugène Seria aux éditions Pauline. C'est une question qu'on se pose, mais personne ne pourra jamais mettre en doute qu'il a été vraiment un grand éducateur. Moi, c'est cela qui m'intéresse. Mais pourquoi Don Bosco s'est-il consacré à l'éducation des jeunes? Comment a-t-il conçu l'éducation? Et puis comment a-t-il réalisé ses projets? Puis comment veut-il qu'on, nous, aujourd'hui, nous le réalisions? On peut donner la réponse à ces trois questions. En gardant toujours dans notre cœur que Don Bosco était avec Dieu. Don Bosco s'est engagé dans l'éducation de la jeunesse avec enthousiasme. L'enthousiasme de celui qui croit avoir reçu de Dieu lui-même une mission spéciale. Il avait de bonnes raisons de le penser, d'ailleurs. Qui donc, sinon Dieu, lui avait mis au cœur ce penchant inné, une sorte de germe et de pressentiment de vocation qu'il conduisait dès sa plus tendre enfance à rechercher les enfants, non point pour s'amuser avec eux, mais pour leur redire, c'est extraordinaire, pour leur redire les belles et les bonnes choses que sa mère lui avait apprises, et même pour les écarter du mal puis les pousser au bien. Mais pourtant, il était joyeux. C'était pas un casse-pied. En réfléchissant sur ses manifestations précoces, il écrivait lui-même, alors qu'il était déjà assez âgé, « Rassembler les enfants pour leur faire le catéchisme. J'en eus l'idée alors que je n'avais que 5 ans, et c'était mon plus vif désir. Il me semblait que c'était la seule chose que j'avais à faire sur la terre. » Plus tard, alors qu'il commençait à songer à se faire prêtre, il a découvert, tout d'un coup, ce qu'il ferait de son sacerdoce. Si j'étais prête, oh, je m'approcherais des enfants, je les grouperais autour de moi, je voudrais les aimer, me faire aimer d'eux, leur dire de bonnes paroles, leur donner de bons conseils, et me consacrer tout entier à leur salut éternel. Il voulait faire ce qu'a fait l'abbé Jean-Claude Pepin, qui est décédé ces jours-ci, et qui était le meilleur ami de monsieur le cardinal Turcotte. Un prêtre de feu que j'ai connu quand il était séminariste. Il a été séminariste de 1950 à 54. Jean-Claude Pepin. Quoique mystérieux, c'est un appel discret et authentique, on peut dire, du ciel. Il s'est fait entendre dans son cœur, oh, il avait 9 ans, quoi. Le voile de son avenir s'est déchiré devant lui au cours d'un songe. Ce qu'ont été les songes de Don Bosco, on va le voir plus loin. Mais arrêtons-nous, pour le moment, sur un songe, que l'on peut appeler le songe de la vocation. Voici le texte qu'il a écrit dans Souvenir. Pardon. En songe, il me sembla être auprès d'une maison dans une cour assez spacieuse, où se trouvait rassemblée une multitude d'enfants qui s'amusaient. Certains riaient, d'autres jouaient et beaucoup blasphémaient. En entendant ces blasphèmes, je me suis tout de suite lancé au milieu d'eux, me servant de mes poings et de mes paroles pour les faire taire. À ce moment apparut un homme vénérable, dans la force de l'âge, noblement vêtu. Un manteau blanc le couvrait tout entier, et son visage était si brillant que je ne pouvais le regarder. Il m'appela par mon nom et ajouta ces paroles. « Ce n'est pas avec des coups, mais par la douceur et la charité que tu devras gagner leur amitié. Mets-toi donc immédiatement à les instruire sur la laideur du péché et la beauté de la vertu. » Convaincu et effrayé, je songeais que j'étais un pauvre enfant ignorant, incapable de parler de religion à ces garçons. Alors, ces garçons, cessant leur rire, leurs cris et leurs blasphèmes, se groupèrent tout autour de celui qui parlait. Sans presque savoir ce qu'il me disait. « Qui êtes-vous, dis-je, vous qui me commandez une chose impossible ?»« C'est précisément parce que ces choses semblent impossibles que tu dois les rendre possibles par l'obéissance et l'acquisition de la science. »« Où et par quels moyens pourrais-je acquérir la science ?»« Je te donnerai la maîtresse sous la conduite de laquelle tu pourras devenir savant. » et sans laquelle toute science n'est que sottise. Mais qui êtes-vous, vous qui me parlez ainsi? Et la réponse est venue dans ce songe magnifique. Je suis le fils de celle que ta mère t'apprend à saluer trois fois par jour. Ma mère me dit de ne pas fréquenter ceux que je ne connais pas sans sa permission, aussi dites-moi votre nom. Il dit mon nom, demande-le à ma mère. À ce moment-là, je vis à ses côtés une dame d'un aspect majestueux, vêtue d'un manteau qui resplendissait de toutes parts comme si chacun de ses points était une très brillante étoile. Je vous rappelle, c'est un songe, comme un rêve. J'étais de plus en plus embarrassé dans mes demandes et mes réponses. Elle fit signe de m'approcher et me prit la main avec bonté. « Regarde, me dit-elle. » Je regardais et m'aperçus que les enfants avaient tous disparu. À leur place, je vis une multitude de chèvres, de chiens, de chats, d'ours et ou d'ours, et d'autres animaux. Voici ton champ. Voici où tu dois travailler. Rends-toi humble, fort, robuste. Et ce que, en ce moment, tu vois se passer pour ces animaux, tu devras le faire pour mes fils. Et le songe se continue ainsi. Je levai les yeux. Et voici qu'à la place des animaux féroces apparurent autant de doux agneaux qui bondissaient et accouraient en bêlant autour de cet homme et de cette dame comme pour leur faire fête. Alors, toujours en songe, je me suis mis à pleurer et je priais cette dame de me parler, de l'expliquer, parce que j'ignorais tout ce que cela signifiait. Elle posa la main sur ma tête et me dit « Au moment voulu, tu comprendras. » Après quoi, un bruit me réveilla et tout disparut. Je demeurai abasourdi. Il me semblait que j'avais mal aux mains à cause des coups de poing que j'avais donnés, que le visage me faisait mal à cause des gifles que j'avais reçues de ces polissons. Et puis ce personnage, cette dame, les choses dites et entendues occupaient tellement mon esprit que, cette nuit-là, il me fut impossible de me rendormir. Don Bosco a raconté ce songe à sa famille et puis il n'en a pas parlé pendant 34 ans. Mais il a dit qu'il n'a jamais pu l'effacer de son esprit. Dans le déroulement des événements de sa vie, il lui a toujours semblé que se vérifiait graduellement tout ce qu'il avait vu et entendu alors. Aujourd'hui, nous pouvons découvrir en ce songe l'annonce d'une mission qui lui a été indiquée, quoi. Puis la méthode, puis le succès final aussi. Lorsque Pie IX a entendu ce songe, il l'a pris au sérieux. Et à ce propos, voici comment Don Bosco a terminé son récit. « J'ai toujours gardé silence sur ce songe et mes parents n'en faisaient pas cas. Mais lorsqu'en 1851, je me suis rendu à Rome pour traiter avec le pape de la congrégation salésienne, il me fit raconter minutieusement tout ce qui avait l'apparence du surnaturel. Alors, pour la première fois, je racontai le songe que je fis entre 9 et 10 ans. Et le pape m'a ordonné de l'écrire littéralement en détail et de le laisser comme encouragement aux fils de la congrégation, qui était le but de cette étape à Rome. Il convient d'ajouter, il faut dire, là, pour accroître l'impression reçue, ce songe s'est répété plus de 6 fois et toujours avec des détails nouveaux qui se développaient, l'éclairaient. À 16 ans, Don Bosco a eu la promesse des moyens matériels nécessaires. À 19 ans, il a reçu l'ordre formel de s'occuper de la jeunesse. À 21 ans, on lui a indiqué la catégorie de jeunes dont il devait spécialement s'occuper. Puis à 22 ans, il a su que son premier champ d'action serait Turin, la ville de Turin. Les 2 dernières fois, il a vu distinctement surgir une grande œuvre au Val d'Occo. C'est là qu'il a établi son œuvre, et à Turin, et il a appris comment il devait agir pour s'entourer d'auxiliaires sérieux. Là, c'était l'annonce de ce qu'on appelle l'oratoire et de la société salésienne, hein, parce qu'il est inspiré par Saint-Philippe Neri. Et puis, salésienne, ça vient de Saint-François de Sales, il est inspiré par la spiritualité de Saint-François de Sales aussi. Et le renouvellement de ces phénomènes l'a persuadé tout à coup que l'origine était vraiment surnaturelle. Alors, en 1864, il l'a raconté à ses fils, puis terminé en ces termes, « Quelqu'un pourra dire, oh, les choses tournent à la gloire de Don Bosco, mais il n'en est rien. À moi, il appartient de rendre un compte terrible de la manière dont j'ai accompli la volonté de Dieu. Avec ce dessein que le Seigneur a manifesté, je suis toujours allé de l'avant. Et c'est le but unique de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et tel est le motif pour lequel, dans les adversités, les persécutions, au milieu des plus grands obstacles, je ne me suis jamais laissé effrayer. Et le Seigneur a toujours été avec nous. » Et la chronique de ce qu'on appelle l'oratoire, le début de l'ordre des Salésiens, là, de la congrégation des Salésiens, mais la chronique de l'oratoire qui nous rapporte ces faits achève par ces mots: « On ne peut décrire l'impression profonde qu'a fait cette révélation et l'enthousiasme qu'elle a suscité. Le souvenir du songe prophétique se réveilla dans sa mémoire, ou encore mieux, ça l'a assailli à Rome en mai 87, alors qu'il célébrait la messe. Dans l'église du Sacré-Cœur, l'émotion fut si grande que des larmes ont inondé son visage. 62 ans s'étaient écoulés depuis qu'il lui avait été dit, « En son temps, tu comprendras. » Et il comprenait que ce temps était arrivé. C'était l'érection du sanctuaire dédié au cœur de Jésus dans la cité éternelle, dans Rome, et consacré le jour précédent, lui parut comme le couronnement de la mission entrevue dès l'enfance. Don Bosco n'a rien omis de ce qu'une saine pédagogie, puis son instinct psychologique aussi, lui dictait pour faire de l'enfant un futur ouvrier. Il s'occupait des enfants simples, des enfants pauvres. C'est pas les grandes études, là. Alors, il voulait faire de l'enfant un futur ouvrier qui fasse honneur à sa profession. Et on s'explique facilement que face à l'autorité de l'État, du Piémont, là, du nord de l'Italie, il est mis en relief, de préférence, l'aspect civil de l'éducation qu'il donnait. Il ne concevait pas l'éducation d'un jeune baptisé sans le devoir de faire, on pourrait dire, converger toute activité pédagogique vers le développement de la vie surnaturelle. Il n'a jamais oublié l'aspect surnaturel, l'âme. Et voilà le point qui est intéressant d'étudier pour connaître l'attitude particulière de Don Bosco en face de ce grand problème. On a dit, la vie morale de l'homme après le Christ doit se développer dans la sphère du surnaturel. L'éducation qui prétendrait s'en tenir à la zone naturelle serait un abaissement de niveau. Celui qui descend du plan de la grâce paie vite son erreur, parce qu'il ne s'arrête pas au rez-de-chaussée, mais il dégringole au sous-sol. C'est Monseigneur Caviglioli qui a dit ça, et je trouve ça très bon. Cet effort vers une éducation résolument puis intégralement chrétienne était bien nécessaire, surtout pour les classes ouvrières, laborieuses. Quand Don Bosco a entrepris son œuvre, il y avait un naturalisme qui envahissant, qui pénétrait l'âme des jeunes dans les écoles publiques. Comme aujourd'hui, c'est la même chose. Les théories pédagogiques les plus en vogue se refusaient à toute idée de référence à un ordre supérieur. Et même s'y montrait hostile souvent, comme ici, il n'était pas rare que même de bons esprits entraînés par le courant on arrive à sacrifier plus ou moins aux tendances de l'époque. Hein. On dit, ah, c'est, les choses ont changé, ça a évolué. Ça n'a pas évolué, ça a dévolué. C'est une régression. Sans rien dédaigner de ce que son temps lui offrait de valable, Don Bosco plaçait son idéal beaucoup plus haut, et comme il concevait l'éducation, la façon dont il la concevait, il suffit pour le savoir de remarquer comment il accueillait les jeunes qui venaient vers lui. Il les recevait de la main de Dieu. Il disait, Dieu nous a envoyés. Dieu nous envoie. Dieu nous enverra beaucoup de jeunes. C'est Jésus, hein, qui dit à son père, tu me les as donnés. C'est la même chose. Il savait fort bien que les parents et les bienfaiteurs lui confiaient pour leur apprendre les lettres, les arts, les sciences et un métier. C'est pour ça, mais il répondait à cette attente, mais dans ses instructions à ses auxiliaires, il répétait aussi, le Seigneur nous les a envoyés pour que nous nous intéressions à leurs âmes et qu'ils trouvent ici la voie du salut éternel. Aussi, tout le reste doit être considéré comme un moyen. Notre but suprême est de les rendre bons et de les sauver éternellement. C'est pourquoi il faut bien comprendre que tout de suite, dès la première rencontre, là, Saint Jean Bosco leur parlait de leur âme. Il avait même sur ce point une opinion qui pourrait surprendre quelque peu. Il estimait que si lors de l'entrée d'un jeune, le supérieur ne manifestait pas d'amour pour son salut éternel et craignait de lui parler avec prudence des choses de la conscience, si en lui parlant de son âme, il usait de moyens termes, il lui disait d'une manière vague de devenir bon, ou de se faire honneur, d'obéir, d'étudier, de travailler. Il disait que tout cela ne produirait aucun effet durable, ne changeait rien à rien et ne gagnait pas son affection. C'était un faux pas qui, étant le premier, est difficile à redresser, disait-il. Voilà ce que lui avait révélé une très longue expérience. Saint Jean Bosco disait souvent, le jeune aime plus qu'on ne le croit, qu'on lui parle de ses intérêts éternels. Et il comprend, d'après cela, qui lui veut ou ne lui veut pas vraiment du bien. Cette manière d'agir ne doit pas être seulement celle du supérieur de la maison, hein. Mais Saint Jean Bosco recommandait que principalement, au début de l'année, tous les maîtres, par leur enseignement, leur assistance, leur réprimande et leur récompense, mais montrent aux jeunes que l'unique raison d'être de tout cela, c'est le salut de leur âme. Qu'est-ce que ça veut dire, le salut de leur âme, si ce n'est pas la liberté intérieure dès l'âge de 9-10 ans? Une liberté qui gonfle le cœur d'amour pour Dieu et qui répond à l'amour de Dieu, qui fait que l'enfant fait les belles choses, les bonnes choses, pour ses compagnons, pour ses parents. Il étudie avec intelligence, il s'améliore. C'est ça, c'est une forme de salut, de libération, ça. Ça vient de l'âme qui se purifie et qui sait que Dieu l'aime. Il attendait des maîtres qu'il considère l'école comme un moyen de faire du bien. Il leur disait, vous êtes comme les curés dans leur paroisse, comme les missionnaires dans leur champ d'apostolat. C'est pourquoi, de temps en temps, mettez en relief les vérités chrétiennes. Parler des devoirs envers Dieu, des sacrements, de la dévotion à la Sainte Vierge. En somme, ils voulaient que leurs leçons soient chrétiennes et que leurs exhortations aux élèves à devenir bons chrétiens soient franches et aimantes. Ils disaient, voilà le grand secret pour s'attirer l'affection de la jeunesse et acquérir toute sa confiance. Celui qui a honte d'exhorter à la piété est indigne d'être maître. Les jeunes le méprisent. Et il n'obtiendra d'autre résultat que de gâter les cœurs que la divine providence lui a confiés. Alors, chaque supérieur, chaque maître devrait constamment implorer le secours de Dieu pour puis lui offrir tout le bien qui s'est accompli, qui a été réalisé. Un bon éducateur, un bon prédicateur, etc., ne garde pas pour lui le bien qui s'est fait. Il l'offre à Dieu, il sait que ça vient de lui. Hein. Et lorsque quelqu'un se plaignait de sa classe, Don Bosco commençait généralement par lui demander, prie-tu pour tes élèves? Prie-tu pour tes élèves? Et dans ses souvenirs confidentiels au directeur, il recommandait à chacun d'eux, dans les choses de plus grande importance, élevez toujours brièvement votre esprit vers Dieu avant de décider. Dans les règlements des maisons, en conclusion des articles préliminaires, les généraux, Saint Jean Bosco déclare qu'avec la patience et la diligence, la prière est nécessaire à chacun. Sans elle, il croit que tout règlement, même excellent, est inutile. Lorsqu'on avait obtenu de bons résultats, il disait « Faut nous humilier devant Dieu, reconnaître que tout vient de lui. Le prier, et particulièrement à la Sainte Messe lors de l'élévation de l'hostie, nous recommander à lui, ainsi que nos fatigues et nos élèves. » Et après quoi, développant son sujet, il éclairait d'exemples sages et variés là, les trois articles fondamentaux de son programme. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, la fuite du péché, on ne parle plus de ça maintenant. Deuxièmement, la confession fréquente, on n'en parle plus non plus aujourd'hui. La communion fréquente, on n'en parle pas non plus. Alors on ne parle pas des trois principes et articles fondamentaux du programme de Don Bosco, ça a été éliminé. Quelle tristesse! Qu'est-ce que va devenir mon petit-fils dans tout ça, mon Dieu? Oh! Conduire les directeurs puis les autres à maintenir Dieu dans l'âme des jeunes était le plus grand de ses soucis. Un sujet inépuisable, ce que j'aurais à dire, c'est tellement plus que ça. L'élément religieux dans l'éducation, pour lui, c'est essentiel, même hors de pair. Et sans lui, non seulement l'éducation, d'après lui, était inefficace, mais elle n'avait pas de sens. Dans un avis sacré qu'il a publié puis répandu en 1849, on lit cette phrase, « La religion seule est capable de commencer et d'achever la grande œuvre d'une véritable éducation. » Quand je parle de religion, je ne parle pas de niaiserie, je parle d'une religion profonde qui fait qu'on a le cœur battant d'amour pour le Christ et avec lui, dans l'unité de l'Esprit-Saint pour son Père, pour le cœur de son Père qui nous aime tant. Ces 10 ans... Saint Jean Bosco ne parlait certainement pas d'une religiosité vaporeuse, abstraite et sans pratique. Dans la vie du jeune François Bessuco, publié en 1864, il s'exprime très clairement, sans se soucier de ce que pourraient en penser les pédagogues. Il dit « Que l'on dit ce que l'on voudra des divers systèmes d'éducation, quant à moi, je ne trouve d'autre base solide que dans la fréquence de la confession et de la communion. » Et je ne crois pas exagérer de dire que ces éléments laissés de côté, il n'y a pas de moralité. C'est une conviction qui l'accompagnera toute sa vie. Et en 1878, il déclarait franchement à un haut fonctionnaire du gouvernement, « On dit que Don Bosco veut trop de religion. C'est qu'en effet, j'estime que sans religion, on ne peut obtenir rien de bon. » Et en 1885, avec un sentiment de découragement, il exhalait cette plainte, « Vieux, et au bord de la tombe, je m'en vais avec la douleur de n'avoir pas été suffisamment compris. » Il ne me spécifie pas par qui, mais il n'est pas difficile de l'imaginer. Le pape Pie XI l'avait, lui, très bien compris. Après l'avoir proclamé le grand défenseur de l'éducation chrétienne, il indique, dans son homilie de la canonisation, le secret grâce auquel le système éducatif de Saint Jean Bosco a obtenu des fruits si abondants et si merveilleux. Il réalisait ces principes qui s'inspirent de l'Évangile et que l'Église catholique a toujours recommandé. Je vous mentionnais tout à l'heure l'abbé Jean-Claude Pepin, qui est décédé ce mois-ci, qui s'occupait des jeunes aussi. Et lors de ses funérailles, l'abbé Gilles Savoie disait « Il a été ce prêtre, ce pasteur qui aimait tous ceux qui l'entouraient, et de façon désintéressée et gratuite. Le Christ, il le voyait comme un ami, comme un libérateur. » Il était épris d'un amour immense pour Jésus-Christ. Il a ainsi accepté de répondre à son appel et d'être par son sacerdoce un de ses plus ardents disciples. Je vous rappelle que l'abbé Jean-Claude Pepin était le meilleur ami de notre cardinal, Monseigneur Turcotte. Devant un auditoire distingué, c'était à Paris en 1883, Saint Jean Bosco disait « L'âme des jeunes, à l'époque de sa formation, a besoin d'expérimenter les bienfaits et les effets de la douceur sacerdotale. Il tablait beaucoup sur la bonté sacerdotale. La douceur, ou l'affection sacerdotale, c'est l'émanation de la bonté sacerdotale, d'une bonté qui, née et nourrie de l'amour de Dieu, se révèle paternelle et confiante pour le bien des âmes, et qui laisse un souvenir durable et salutaire sur celui qui a vécu sous son influence pendant son jeune âge. Cette bonté, cette grande bonté, à laquelle j'ai goûté dans mon enfance. Je me souviens de l'abbé Bernard Barrette à la paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont, l'abbé Bouchard, tant de jésuites que j'ai eus comme professeurs. Mon père Jean Genet, père Oscar Bélanger, et quantité d'autres, je ne peux tous les nommer. Mais cette bonté sagement et suavement adaptée aux jeunes, dont Bosco l'a choisi, avec raison, pour sa méthode d'éducation, dont Rua, un petit garçon de 8 ans qu'il avait élevé, qui est devenu son successeur, dont Rua, qui est un saint aussi, l'a défini, hein, un homme en qui Dieu a élevé la paternité spirituelle au plus haut degré. Voilà ce qu'était saint Jean Bosco. La bonté de Don Bosco rayonnait de toutes parts. Hein. Elle était comme le soleil qui répandait sa lumière, sa chaleur, même quand on la voit pas. Elle maintenait un climat serein, ça faisait naître chez les enfants le désir de le contenter. Ou aussi, dès qu'il paraissait là, sur la cour de récréation, il courait vers lui pour lui baiser la main, comme on fait dans les pays latins, hein, en Espagne aussi. J'ai fait ça en 1950, j'aimais bien baiser la main des prêtres. C'est par la main des prêtres que nous vient le baptême, par la main des prêtres que nous vient le corps du Christ, l'absolution aussi. La bénédiction de nos mariages que nous nous donnons. C'est la main du prêtre qui fait les onctions sur notre corps, qui nous donne le viatique avant de mourir. C'est la main du prêtre qui nous guide. La main du prêtre, c'est sacré. Et ses enfants se tenaient près de lui. Ils lui parlaient, ils lui souriaient, ils plaisantaient avec lui. Et lui, il regardait de ci, de là, il tendait l'oreille à celui qui lui semblait avoir quelque chose à lui dire, puis se penchait vers l'oreille de celui qu'il voulait avertir, hein, encourager ou corriger. Saint Jean Bosco ne perdait jamais de vue les 3 maximes qui lui inspiraient son cœur de prêtre et qu'il rappelait sans cesse à ses fils pour conquérir l'affection puis la confiance des jeunes. Aimer ce qu'ils aiment et obtenir ainsi qu'ils aiment eux aussi ce que nous aimons pour leur bien. Les aimer de telle façon qu'ils sachent qu'ils sont aimés. Apporter tout notre soin pour qu'aucun d'entre eux ne nous quitte mécontent. On a vite fait dénoncer ces aphorismes, c'est clair, ça. Puis on les applaudit. Mais quand il s'agit de mettre ça en pratique, ça exige des sacrifices quotidiens, continuels. Et Don Bosco enseignait que l'éducateur est un être consacré au bien de ses élèves. Et que par conséquent, l'éducateur doit être prêt à affronter toutes les fatigues, tous les ennuis pour atteindre son but. Et cette force et cette persévérance ne sont possibles qu'à celui qui, dans la grande œuvre de l'éducation, cherche uniquement la gloire de Dieu et le bien des âmes. Vous direz que c'est des mots habituels, mais oui, il faut chercher la gloire de Dieu. Être fou et passionné d'amour pour Dieu. Rechercher la gloire de Dieu, c'est rechercher le contentement du cœur de Dieu, que le cœur de Dieu soit plein de joie. Avec le plus d'âme possible. Puis rechercher le bien des âmes, c'est la même chose. C'est ce qu'il prêche lui-même par la parole et par l'exemple. Vient le temps, c'est évident, où toutes les occupations l'ont obligé à être moins présent parmi ses enfants. Mais alors, il s'était créé autour de lui une sorte d'état-major. Hein. C'était comme une longue main qui atteignait ce qu'il ne pouvait plus atteindre personnellement. Puis qui agissait en son nom. Mais à sa place, selon son propre esprit cependant. Hein. On peut rentrer dans quelques détails. La bonté sacerdotale de Don Bosco se révélait à ses élèves dès qu'ils mettaient le pied à ce qu'on appelle l'oratoire. Des manières paternelles. Paternelles dans le bon sens du terme. Là. Dans le sens du beau mot « père » avec un cœur de mère. Hein. Un vrai père, c'est un cœur de mère, puis une vraie mère a des paroles paternelles. Alors, de manière paternelle, et puis il y avait aussi la sérénité de son visage, l'amabilité de son sourire, tout ça, ça éveillait chez eux le respect, la confiance. Il faudrait pouvoir apporter ici les questions diverses et habiles qu'il posait aux nouveaux arrivants qui étaient guidés. Il était guidé vers lui, ces enfants-là, et lui avait une intuition affectueuse à leur égard. Hein. Au moment voulu venait la fameuse question, « Veux-tu être l'ami de Don Bosco ?» Elle lui ouvrait la voie pour parler de l'âme et insinuer la pensée de la confession. Et ceux qui ne connaissent pas Don Bosco pourraient trouver étrange cette manière de faire. Pourtant, il mettait tant de naturel. que les nouveaux venus, en quittant son bureau, laissaient entre ses mains la clé de leur cœur. C'est un vrai prêtre. C'est pas une machine, pas un fonctionnaire de Dieu, comme dit Drevermann. C'est un vrai prêtre. Et Don Bosco, c'est si beau, un vrai prêtre, c'est si grand. J'en profite pour remercier tous les vrais prêtres qui m'ont formé, qui m'ont aidé à aimer l'Église. Don Bosco parlait chaque soir à ses enfants rassemblés après la prière, il s'agit du mot du soir. C'était quelques minutes d'intimité familiale et d'effusion paternelle qui imprimait en tous la dernière impression de la journée. Ses auditeurs nous ont transmis bon nombre de ses entretiens. En voici un. Tous les 31 décembre, il avait l'habitude de donner une étreinte, c'est-à-dire un souvenir spirituel pour l'année nouvelle. Hein? On distribuait ça au jour de l'an dans ce temps-là. En 1859, voilà comment il commence. « Mes chers enfants, vous savez combien je vous aime dans le Seigneur, et comme je me suis consacré à vous faire le plus de bien possible. Le peu de savoir et d'expérience que j'ai, tout ce que j'ai acquis, tout ce que je suis et que je possède, prière, fatigue, santé, ma vie elle-même, tout cela je désire l'employer à votre service. Chaque jour, et pour quoi que ce soit, profitez de moi, plus particulièrement en ce qui concerne votre âme. Et de mon côté, pour étreindre, je me donne tout entier à vous. Oh, ce sera une pauvre étreinte. Mais quand je vous donne tout, je veux dire que je ne me réserve rien. » Alors, après la distribution des souvenirs, il continue, « Je veux que l'année s'achève dans un parfait amour et une sainte allégresse. Aussi, je vous pardonne toutes les fautes que vous pouvez avoir commises. Et vous-même, à votre tour, pardonnez-moi celles que j'aurais pu commettre. Je veux commencer l'année 1860 sans mauvaise humeur et sans tristesse. » Et c'est comme ça qu'il a terminé son mot du soir. Les élèves savaient qu'ils pouvaient aller le trouver chaque fois qu'ils le désiraient. Et comme il les recevait bien, il les faisait asseoir, et lui, assis à son bureau, il les écoutait attentivement, comme on écoute celui qui a des choses importantes à dire, et il leur donnait satisfaction, là, dans la mesure du possible. Et après l'entretien, il les accompagnait jusqu'au seuil. Il leur ouvrait la porte, puis il les congédiait avec l'habituel « Soyons toujours de bons amis. » Il est inutile d'ajouter que les enfants descendaient l'escalier contents et joyeux comme des rois, et combien ils étaient heureux de le rencontrer, allant et venant à travers la maison. Son cœur paternel lui mettait chaque fois sur les lèvres une parole affectueuse, qui était pour eux le plus beau cadeau, étant donné surtout qu'il avait l'art de rappeler quelque chose qui les intéressait. Et quant aux malades, il leur rendait vite... À l'infirmerie, là, ils leur rendaient visite. Non pas de loin puis à la hâte, mais près de leur lit, puis sans se presser. Ils s'informaient de leur état, les réconfortaient, puis au besoin, ils donnaient des ordres pour qu'on les soigne puis qu'on s'occupe d'eux personnellement. Mais quel que soit l'éducateur, il faudra un jour ou l'autre réprimander, hein, puis la bonté sacerdotale de Don Bosco avait, dès 1846, formulé la règle à suivre en pareille occasion. Pendant l'une de ses absences du Val d'Occo, il vint à savoir qu'un prêtre ami qui l'aidait à l'oratoire traitait les garçons avec beaucoup d'énergie, au point qu'il en avait déjà découragé beaucoup. Alors le 31 août, en mettant au courant l'abbé Borel, qui l'aidait dans la direction, il lui écrivait « Faites en sorte que l'huile assaisonne tous les plats dans notre oratoire. Hein. » L'huile, on connaît ça en Italie, ils en servent dans la cuisine. « Faites en sorte que l'huile assaisonne tous les plats dans notre oratoire. » Il recourait souvent dans la suite à ce langage métaphorique, là, en des cas semblables. Par exemple, en 1866, il dit un jour à Don Roy, qui était spécialement chargé de la discipline, « Me semble avoir entendu certaines portes grincer. Un peu d'huile sur les gonds arrangerait tout cela. » Sans de l'humour. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur l'humour de Don Bosco. Hein. Et Don Bosco lui recommandait même de se faire marchand d'huile. Inutile de dire que lui-même faisait usage de cette huile sans l'épargner. Il est impossible de le suivre dans toutes les manifestations de sa bonté. Oh, la bonté de Don Bosco. Ça réjouissait tout l'oratoire. On peut pas exposer à quel point, grâce à elle, il gagnait la confiance des élèves. Il y en a trop. Qu'on lise les pages si admirables, si admirées, que son cœur de prêtre éducateur lui a dictées sur le système préventif. Je vous recommande les écrits spirituels. Ce sont des textes présentés par Joseph Aubry. C'est un gros volume. Jean Bosco, écrits spirituels. Publié chez Nouvelle Cité, les éditions Nouvelle Cité. Vous trouverez ça aux éditions Pauline. qui distribue Nouvelle Cité. C'est paru il y a moins de 10 ans. Mais c'est magnifique, hein? C'est intéressant à lire, ça a près de 600 pages. J'ai lu ça avec ravissement il y a quelques années. Et alors donc, on dit qu'à Londres, un anglican qui dirigeait une maison de jeunes avait lu le texte de Don Bosco sur le système préventif. Il est venu à Turin, dans quelques collèges d'Italie, pour observer comment on faisait ça. Il en était tellement impressionné qu'il a cherché à s'y conformer de son mieux. Il avait le portrait de Don Bosco dans son bureau de réception, y compris la devise. Quelle était la devise de Don Bosco? Elle est fantastique, elle est belle, belle, belle. « Donne-moi les âmes, garde le reste. » Donne-moi les âmes, garde le reste. C'est inspiré de la Bible de l'Ancien Testament, ça. Et deux articles de lui, de cet anglican, publiés en 1900-1903, se terminaient sur le vœu que le Seigneur suscita en Angleterre, chez les anglicans, des hommes de l'esprit de Don Bosco, parce qu'on en avait un extrême besoin. Et étant un anglican ritualiste, ou près du catholicisme, il parlait aussi de la fréquente confession et de la messe quotidienne, et ceci à ceci près qu'il ne l'appelait pas « masse », terme qui ne plaît pas à ses coreligionnaires anglicans, mais il disait « Eucharist », hein, l'Eucharistie. Cet anglican avait donc compris lui aussi, bien que dans un sens protestant, qu'à un certain point, que la piété chrétienne est le fondement du système éducatif de Don Bosco. Oui, la piété. La piété, selon Don Bosco, a deux caractéristiques. Elle n'est pas sentimentale. Puis, elle ne se sépare pas de la joie. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais c'était un homme fantastique, ce Don Bosco, et à l'oratoire, la piété était cultivée, non pas imposée. Elle fleurissait avec une sympathie spontanéité. Elle se nourrissait de la prière en commun, de la messe, de la confession, de la communion fréquente, puis du mot du soir, hein, pour la stimuler. Mais il y avait des pratiques périodiques, comme la prédication des dimanches. Mais une prédication intense, il paraît que d'entendre Don Bosco, ça remuait le cœur. C'était pas des lectures mornes et plates de textes qu'on pige dans des livres. L'exercice mensuel de la bonne mort aussi, ça peut paraître étrange, mais pourquoi pas réfléchir sur la bonne mort, la mort qui est le jour par excellence de l'ouverture vers Dieu, la retraite aussi au milieu de l'année scolaire. Puis contribuer également les fêtes religieuses, évidemment, qui étaient préparées avec soin, puis solennellement célébrées. Aujourd'hui, on connaît même pas les fêtes religieuses, on les oublie, on sait même pas que c'est le Vendredi Saint, on sait même pas que c'est l'Assomption, on sait plus rien. Puis autre soutien de la piété, il y avait des compagnies, des associations qui existent toujours, puis elles regroupaient les meilleurs garçons dans des sections. Mais plus que tout et tout, c'est l'influence de Don Bosco qui rayonnait. Par son exemple, ses paroles, puis par le ministère de la confession et sa piété, son zèle pour la piété, justement, se communiquait à ses inférieurs, qui, à leur tour, diffusaient ce même esprit dans leur collège. Don Bosco disait qu'avec les pratiques de piété, il cherchait à ne pas écraser, mais ni même fatiguer les jeunes. Il dit, nous faisons en sorte qu'elles soient comme l'air, qui n'écrase pas et ne fatigue jamais. Si bien que nous ne portons pas sur nos épaules une colonne très lourde. La raison en est que cet air nous entoure et nous pénètre entièrement, au-dedans et au-dehors. La piété, selon Don Bosco, a deux caractéristiques, et je vous l'ai dit, n'est pas sentimentale, ça ne sépare pas de la joie, c'est une piété faite de sentiments. Mais le sentiment, c'est éphémère, et donc c'est superficiel. Il n'avait pas sentimental. Il y a du sentiment dedans, mais n'est pas sentimental. Elle ne se sépare pas de la joie, le sentiment s'exprime dans la joie. Don Bosco ne connaît pas la maladie moderne du sentimentalisme. Selon lui, la véritable piété, c'est une disposition de l'âme à éviter, par amour, l'offense de Dieu, même légère, et à accomplir tous ses devoirs par amour de Dieu toujours. Donc s'il y a un sentiment d'amour, c'est un sentiment réaliste et concret. C'est pas du machi-macha, là. Si les pratiques ne conduisent pas à ce but, elles restent des pratiques en l'air. C'est pourquoi, à l'occasion des ce qu'on appelait les triduums, 3 jours de prière, les neuvaines, 9 jours de prière, des mois de Marie, le mois de mai ou le mois du d'octobre, le mois du rosaire, puis les autres et des fêtes. Il commandait certes la communion puis les prières spéciales, mais en même temps, il indiquait jour par jour, sous le nom de Fioretti des bouquets spirituels, certains devoirs, certains actes de vertu, certaines bonnes œuvres à faire en hommage au Seigneur, à la Vierge, aux saints. Surtout l'étude, le travail, l'obéissance, l'observance de certaines règles, et en premier lieu, la fuite du péché, particulièrement de l'impureté. On dira, bah, aujourd'hui, on leur montre comment mettre des condons, c'est beaucoup mieux. Mais oui, c'est beaucoup mieux. Mon œil. Ah, je trouve ça inconcevable où on en est rendu. Non pas qu'il faut être intégré, c'est pas ça. C'est soulever le cœur des enfants, les amener à autre chose qu'au désespoir. La piété qu'il inculquait s'inspirait du premier verset du psaume 112. C'est très beau, ce premier verset du psaume 112 que vous connaissez. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui craint de le blesser, le Seigneur, quoi. Qui craint de faire du chagrin à Dieu, de blesser son amour. Donc, heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui bien se plaît à ses préceptes. Généralement, ces petits mots du soir se terminaient par une pensée. Sur ce qui concerne la piété, accompagné de quelques rappels du devoir d'État, le devoir d'État dont je vous ai parlé l'autre jour, en parlant de saint François de Sales, justement, qui a inspiré saint Jean Bosco, puis parler des vérités de la foi, pas parler des vérités de la foi comme des choses ennuyantes, mais des vérités de la foi qui sont belles et nourrissantes et sublimes et qui soulèvent le cœur et l'enthousiasme. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces belles vérités de la foi? C'était un de ces principes que la foi, c'est l'œil de la piété. Et ce n'est pas pour rien qu'à l'oratoire, l'instruction religieuse était à l'honneur. Oh, elle donnait aux garçons une piété éclairée, les habituait à agir pour des motifs surnaturels et selon leur conscience. Il a tellement formé de saints, c'est extraordinaire. Et combien de citoyens honorables sont sortis de ces institutions? Des gens heureux, des gens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants dans la joie. Et c'est ici que se trouve la différence entre le simple pédagogue puis le prêtre éducateur. Mais un prêtre éducateur, ça peut être aussi un laïc dans un sens. Parce que le simple pédagogue ordinaire, là, qui n'a pas la foi, fait un travail psychologique, qui peut être très bien. Mais le second, le prêtre éducateur et le chrétien éducateur, s'emploie aussi et davantage à l'étude des consciences. Car l'éducateur chrétien peut diriger son élève vers un prêtre. Et il y a la joie aussi. C'est Don Marmion. Je vous ai dit qu'il y a un an, j'ai fait une émission sur ce Don Marmion merveilleux qui a enchanté ma jeunesse, ce bénédictin, abbé de l'abbaye de Maretsou, en Belgique, grande abbaye. Eh bien, Don Marmion écrit que la tristesse est un souffle qui vient de l'enfer. La joie est un écho de la vie de Dieu en nous, oui. Chez Don Bosco, l'âme remplie de Dieu rayonnait la joie du cœur par son aspect, son sourire, son optimisme habituel. Ça se transmettait à tout son entourage. Dans le psaume 99, vous vous souvenez, c'est écrit « Servez le Seigneur dans la joie ». Eh bien, ça, c'est un article absolument essentiel dans la pédagogie de saint Jean Bosco. Dans sa jeunesse, on se souvient qu'il a appelé « Société de la joie » un groupe de ses condisciples auxquels il voulait faire du bien. Puis le très pieux Dominique Savio, saint Dominique Savio, dont c'était la fête il n'y a pas longtemps. C'est tombé un dimanche. Tout pénétré de l'esprit de Don Bosco. C'est un jeune saint merveilleux, Dominique Savio, il y en a qui s'en moquent. Qu'est-ce qu'on a à ne pas comprendre le bon sens? En tout cas, Dominique Savio, tout pénétré de l'esprit de Don Bosco, lui interprétait fidèlement sa pensée lorsqu'il disait tout jeune, n'est-ce pas un nouveau venu, « Sache qu'ici nous faisons consister la sainteté à être toujours joyeux. » Quand vous entendez ça dans la bouche d'un enfant de 12 ou 15 ans, c'est merveilleux. « Sache qu'ici nous faisons consister la sainteté à être toujours joyeux. » Ce n'est pas des vaines paroles, hein? En 1857, un élève, peu après son arrivée à l'oratoire, écrivait à un ami « Il me semble être ici au paradis terrestre. Tout le monde est joyeux, mais d'une joie vraiment céleste, et surtout quand Don Bosco est au milieu de nous. » La vie de l'oratoire était faite de piété, d'études et de travail, mais le tout assaisonné d'une sainte joie. On n'a pas vu cela s'en fait difficilement une idée. Qui n'a pas vu cela, plutôt, s'en fait difficilement une idée, c'est un historien qui en a été témoin qui écrit ça. Les survivants de cette époque redevenaient jeunes en célébrant la joie qu'ils avaient alors goûtée dans la maison de Don Bosco. Pourtant, ils ne connaissaient même pas de nom les améliorations introduites depuis lors. Celui qui a le cœur en paix est toujours en fête. Et Don Bosco, dans son court traité sur le système préventif, là, il promettait de composer un ouvrage sur le sujet, mais il n'a pas pu tenir promesse. Pourtant, je vous l'ai dit, il nous a laissé plus qu'un livre dans lequel il aurait développé amplement sa pensée. Il a laissé à ses fils un esprit qui peut les guider dans leur apostolat d'éducateur. Mieux que tous les livres du monde. Cet esprit n'avait qu'une seule source, c'est l'union intime et habituelle avec Dieu. Tout ça, ça s'alimentait à une foi très vive, une foi très vive. Eh bien, les Salésiens sont répandus dans le monde. Et oh mon Dieu, il y a près de 18 000 Salésiens qui animent près de 2000 œuvres dans plus de 115 pays. Les Salésiennes, elles sont près de 17 000 sœurs qui animent 1600 œuvres dans 80 pays. Puis il y a les Salésiens coopérateurs, les anciens, les anciennes de Don Bosco, les volontaires de Don Bosco. C'est une œuvre immense qui couvre la terre. Seigneur Dieu, je te rends grâce de fournir à ton Église des saints de la qualité de Don Bosco. Merci de tout ce que tu accomplis dans leur cœur, dans leur âme, dans leur intelligence, dans leur esprit. Merci pour le don qu'ils ont fait d'eux-mêmes. Merci pour cette Église qui nous donne de si grandes âmes, de si grands hommes, de si grandes femmes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Et nous te supplions de nous en donner par douzaines au Québec. Nous en avons bien besoin. De grâce, Seigneur, nous te le demandons. Je le demande aussi par l'intercession de l'abbé Jean-Claude Pepin, décédé récemment, et probablement qu'il est au ciel.